Kiosque Magazine.
Jeudi 21 mai, je précise bien mai parce que ce matin, j'ai dû regarder la couleur des feuilles pour être sûr qu'on n'était pas en octobre. Il y avait confusion dans mon esprit ou en tout cas dans mon sens climatique. Voilà. Comme à tous les jeudis, nous, c'est-à-dire Éric de Belval et moi-même, François Brodeur, allons vous parler d'économie d'emploi. C'est notre mandat. Et qu'avez-vous prévu cette semaine, Éric?
De nous faire un peu voyager. On va commencer par aller en Chine. Ça fait un moment qu'on ne s'y était pas rendu, mais pour s'occuper d'un individu. Alors, on sait que depuis 2010, les salaires des ouvriers chinois ont assez fortement augmenté en pourcentage, ce qui a entraîné d'importants changements, autant pour le niveau de vie de la population que de modifications dans les termes et l'avenir des échanges commerciaux. Mais comment est-ce que c'est arrivé exactement? Est-ce que c'est la magie de l'autorégulation dans le monde du profit?
Vous croyez à ça?
Non, je m'attendais bien à votre réaction en posant une question pareille. Ben non, on sait bien que ce genre de transformation est toujours le fruit de hautes luttes.
Je me disais hein aussi,
non,
je
c'est
me
clair.
Disais.
Mais dans ces hautes luttes, il semble qu'en Chine, un homme, un seul, ait joué un rôle déterminant, on verra lequel. Alors, ensuite, on change de continent et on part en Islande, où on ne va pas souvent, mais il y a une bonne raison d'y aller, c'est le retour de la planification bienveillante. On parle peu de ce pays, un peu exotique et peu peuplé. On se rappelle éventuellement la dure crise financière qu'il a traversée en 2007 dans le sillage de celle des subprimes. Et le système bancaire, incapable de réguler le crédit, comme partout, en était le grand responsable. Alors, pour tirer les leçons de cette crise, l'Islande envisage de transformer l'État en banquier à la place des banques. Ça fait songer à un retour à la planification d'État. Est-ce que c'est viable? On s'interrogera là-dessus. Et pour terminer, en ce qui me concerne, Internet, ça, je suis tellement content d'en parler. Eh bien, le droit est en retard sur Internet, ça, je suis sûr que vous y êtes très sensible. Il faut dire que la vitesse de l'un n'est pas celle de l'autre. Mais une vraie question se pose. La protection des données de chacun relève-t-elle du droit fondamental des individus? Alors, on connaît la réponse d'Apple ou de Google, c'est non. Et pour conforter cette arrogance, il y a un chantage, un pseudo-accès à la connaissance universelle et gratuite, hein, on connaît ce discours, qui va en définitive l'emporter. Une forme de droit désintéressé et protectrice, ou bien la loi du profit, on va en parler.
Et pour ma part, on vous a parlé souvent de taxi ces derniers mois à l'occasion de l'arrivée de Uber sur le marché. Il y a Francis Veil qui est allé cette semaine d'un article qui synthétise bien tout le conflit et la réalité du monde du taxi à Montréal. Ceci dit, c'est la même réalité un peu partout à travers l'Occident. On le verra. Je vous parle également, de l'achat des librairies du réseau Archambault par Renaud Bray, puisque José Boileau s'est posé une question qui méritait d'être posée, puisque tout le politique semble s'en laver les mains. Dans l'industrie culturelle québécoise, c'est très, très gros, parce qu'il va y avoir un joueur majeur québécois sur le réseau, juste un. On y reviendra. Et pour commencer, je vais vous parler d'un régime de subvention, parce qu'il y a une dépense d'État que les gens ne connaissent pas, une dépense publique, donc qui revient plus cher que la santé à travers le monde, juste une. Et ça n'est pas l'armée. Je vous laisse envisager c'est laquelle et on commence dans quelques instants. C'est Alexandre Scheel qui a attaché le grelot sur ce premier sujet, sujet mystère. Ça a été publié dans Le Devoir du 19 mai 2015. Je vous le donne en mille. Les énergies fossiles drainent 5 300 milliards en fonds publics par an, selon le FMI. Il y a une étude du FMI sur le sujet. Donc, les subventions publiques mondiales consacrées au secteur des énergies fossiles devraient dépasser les 5 300 milliards de dollars en 2015. C'est ce que conclut une nouvelle étude du Fonds monétaire international qui souligne que ce montant est plus élevé que la totalité des dépenses en santé. Ces estimations sont choquantes, a commenté lundi l'institution dans la note explicative accompagnant la publication de cette vaste recension des coûts croissants engendrés par notre dépendance aux énergies fossiles. Le Fonds monétaire international définit ses subventions essentiellement en comparant les prix payés par leurs consommateurs pour leur énergie et son coût réel. Et je fais un aparté ici pour une anecdote absolument charmante. Ça m'arrive régulièrement de voir des gens qui sortent de la station d'essence en râlant contre le prix de l'essence au litre. Le litre d'essence qui vient de l'autre bout du monde, qui est raffiné et transporté à grand prix, et en tenant à la main une bouteille d'eau qui ont payé plus cher probablement au litre que leur essence. Mais il y a quelque chose dans le prix de l'essence que les gens n'ont pas compris dans le tarif réel. Donc, le prix réel comprend les coûts pour les États des dommages de plus en plus importants engendrés par les problèmes environnementaux et en matière de santé humaine. Les bouleversements climatiques qui ne cessent de s'aggraver sont compris dans cette évaluation. On parle souvent ici aussi des coûts associés à un produit, c'est-à-dire internaliser l'ensemble des coûts d'un produit. C'est ce qu'on a fait pour cette étude-là. On s'est demandé combien ça coûte vraiment le pétrole à la communauté, autant qu'à l'acheteur. L'institution financière estime ainsi que les subventions devraient atteindre 5 300 milliards de dollars cette année. Cela équivaut à 10 millions de dollars par minute. Le charbon, le pire des combustibles fossiles en matière de problèmes de pollution de l'air et d'émissions responsables des bouleversements du climat, accapare plus de la moitié des 5 300 milliards. Le pétrole le suit avec le tiers de l'enveloppe globale et le gaz remporte le reste. Ce montant équivaut à 6,5% du produit intérieur brut mondial. Cela signifie que les sommes investies dépassent la part du produit intérieur brut planétaire consacré à la santé qui doit atteindre les 6% cette année. Le rapport revoit d'ailleurs à la hausse l'estimation réalisée en 2013 qui évoquait une subvention annuelle avoisinant les 2 000 milliards. Selon le FMI, cette révision majeure est due à une précision des effets dommageables de la consommation d'énergie sur la qualité de l'air et la santé. Quant à la subvention attribuable au coût des changements climatiques, elle s'élève à 1 268 milliards de dollars pour 2015. Le FMI reconnaît que l'estimation peut sembler surprenante, tant le chiffre est élevé. Mais la réputée institution insiste sur l'importance des problèmes de santé provoqués par les détériorations de la qualité de l'air imputables aux combustibles fossiles. Uniquement en Chine, l'Organisation mondiale de la santé estime que plus d'un million de décès prématurés sont dus à la pollution de l'air causée par les combustibles polluants, essentiellement le charbon. Selon les calculs des subventions, la Chine est d'ailleurs de loin le premier pourvoyeur à 2 300 milliards de dollars, suivi par les États-Unis à tout près de 700 milliards, la Russie 335 milliards et l'Inde 277. Même si le montant semble déjà exorbitant, l'économiste britannique Nicholas Stern juge que l'évaluation du FMI est probablement trop prudente. Une évaluation plus complète des coûts engendrés par les changements climatiques démontrerait que les subventions aux énergies fossiles sont beaucoup plus importantes que ce que suggère ce rapport, a-t-il commenté lundi, cité par le quotidien The Guardian. Il faut également rappeler que les bouleversements du climat risquent d'entraîner des coûts de plus en plus importants dans les années à venir. On peut citer en exemple l'augmentation de la fréquence et de l'ampleur des événements climatiques extrêmes. La hausse des températures globales entraînera aussi des reculs marqués de la quantité et de la qualité de l'eau potable. Même chose pour les rendements agricoles. Les pêcheries mondiales risquent aussi de souffrir. Des reculs de la biodiversité sont à prévoir. Tous ces effets devraient d'ailleurs accroître les conflits régionaux. Le FMI évalue que la mise en place de moyens d'éliminer ces subventions implicites permettrait de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de plus de 20 % en plus de mener à une réduction des décès prématurés imputables à la pollution de l'air. Selon l'institution, la réallocation de ces sommes pourrait également permettre de réduire les taxes qui pèsent sur le travail et de doper des dépenses publiques, source de croissance économique. 3 500 milliards, on y pense, c'est quand même magistral comme somme chaque année, payée pour polluer et finalement, puis c'est ce qui m'énerve dans cette étude-là, c'est qu'on a calculé ce que ça coûtait, mais est-ce qu'une vie humaine, ça a un prix?
Comme d'habitude, mais est-ce qu'une des conclusions de votre article, ça n'est pas de penser que le pétrole n'est pas assez cher et qu'il faudrait payer le litre d'essence beaucoup plus pour tenir compte de ce qu'il y a à financer?
Ce serait le coût réel. Parmi les choses difficiles à croire, du moins jusqu'à ce printemps, jusqu'à Hong Kong peut-être ce printemps, il y a, ce printemps c'est plutôt cet hiver, il y a l'idée d'un Chinois qui se révolte.
Ah oui, est-ce que vous connaissez Tan Ziking?
Pas personnellement, non, mais j'aimerais beaucoup lui serrer la main.
Oui, je comprends. Vous avez d'autant plus raison de le vouloir que cet ouvrier chinois, à lui tout seul, a joué un rôle capital dans l'évolution importante des salaires en Chine, dont je parlais tout à l'heure, et qui a commencé en 2010.
Ce qui en Chine peut vous conduire à une exécution
assez rapide, oui. Parce qu'on l'a dit, tout s'obtient par des luttes, c'est clair, mais encore faut-il qu'à l'intérieur de ces luttes, certains prennent des initiatives et parfois aillent très très loin dans leur engagement. On se rappelle la photo du petit bonhomme devant le char de la place Tiananmen, dont d'ailleurs il n'existe plus aucune trace. Pas de la photo, Dieu merci,
il aura laissé ça, mais j'ai peur qu'il l'ait payé très très cher. Alors, ça a intéressé Sylvain Guyoton dans Le Monde, et ça s'appelle « La révolte contagieuse d'un ouvrier chinois ». L'énergique virage à la hausse qu'ont connu les salaires chinois à partir de 2010 a bouleversé les équilibres de la chaîne de valeur du commerce mondial. Mais ce virage aurait-il pu advenir sans la volonté d'un individu, en l'occurrence celle d'un homme de 24 ans, originaire de Yunnan, identifié par deux journalistes du China News Weekly sous le pseudonyme, donc c'était un pseudonyme, de Tan Ziking. Depuis mai 2010, la révolte gronde dans le delta de la rivière des Perles, l'une des régions les plus industrialisées de la Chine où sont implantés les équipements des constructeurs automobiles comme Volkswagen ou Toyota. Dans l'usine de transmission Honda de Nanhai, dans laquelle travaille Tan Ziking, depuis presque 3 ans, les ouvriers sont découragés. La majoration du salaire minimum mensuel de 831 yuan, ça fait 161 dollars, à 994 yuan, c'est-à-dire 192 dollars. Et je parle de dollars canadiens. Annoncé par l'administration, donc ces chiffres ont été annoncés par l'administration locale le 1er mai, le chiffre de l'augmentation, et il a été annulé par la direction du site, ce qui a réduit d'autant les avantages sociaux. Au final, tenez-vous bien, l'augmentation réelle a été de 34 yuan, c'est-à-dire un peu plus de 6 dollars par mois. Le 17 mai 2010, Tan Ziking, au lieu de rejoindre son poste de travail, appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence et stoppe la production. Dans la foulée, 50 autres travailleurs débrayent. 4 heures plus tard, ils sont 100 à rencontrer l'équipe chargée du management. Des négociations sont prévues pour le 20 et 21 mai. Elles échoueront. Le 22, Tan entraîne 300 ouvriers pour un sit-in. Les patrons annoncent son licenciement. La grève s'intensifie jusqu'à attirer l'attention des médias internationaux. Le 4 juin, sous la pression, la direction accorde 500 yuan, ça fait 97 dollars, de plus par mois, soit 24% d'augmentation. Succès inespéré. La grève se répand comme une traînée de poudre. Elle obligera Honda à arrêter la production dans 4 de ses établissements. Selon la fédération syndicale du Wanzhou, plus de 100 grèves éclatèrent les jours suivants. Ça me rappelle, vous savez, dans le Tao, l'histoire du papillon, du battement d'ailes qui fait le typhon à l'autre bout de la planète. Eh bien, un bouton d'arrêt d'urgence sur une chaîne de production, ça peut être une aile de papillon.
Vous savez ce qui est un net progrès? Convaincu à appuyer sur le bouton d'urgence, oui, mais qu'il y en ait eu un, c'est tout nouveau.
Oui, évidemment. Le 6 juin, Foxconn, en réponse au scandale des suicides à répétition, annonce qu'elle relève les salaires mensuels de 1200 à 2000 yuan. Là, ça fait 60%. Autour de l'usine Toyota de Nansha, 8 des 14 principaux fournisseurs connurent des conflits sociaux. Tous débouchèrent sur des augmentations significatives. Le 10 juin, Kevin Hamlin, c'est un analyste de chez Bloomberg, estime que la Chine atteint le tournant de Lewis, du nom de l'économiste Arthur Lewis, prix Nobel 1979, qui avait identifié le moment critique où la main-d'œuvre d'une économie émergente n'est plus considérée comme illimitée, ce qui entraîne des hausses de salaire. Ça me paraît du gros bon sens, mais quelquefois ça mène au prix Nobel. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Vous savez que le prix Nobel d'économie n'existe pas?
Ah
eh oui. Le prix Nobel d'économie, on l'appelle comme ça par assimilation, c'est un cadeau qui est fait par la Banque royale de Norvège. Mais il ne fait pas du tout partie du testament d'Alfred Nobel.
Donc la Fondation Nobel.
Il n'avait pas du tout envisagé.
Mais il est remis par le souverain quand même.
Tout à fait, oui, mais c'est un prix assimilé et qu'on appelle Nobel un petit peu par excès de, je ne sais pas, de rassemblement peut-être de quelque chose, je ne sais pas.
Encore que jumeler l'inventeur de la dynamite et les économistes, ça pourrait donner un mélange détonnant.
C'est peut-être ça la raison, alors oui, d'accord. En octobre, Yiping Wang, chercheur à l'université de Pékin, affirme que les économistes refusent encore l'idée que la Chine se rapproche du tournant de Lewis. Moi, quand j'ai lu le tournant de Lewis, j'ai pensé que c'était quelque
Lewis
chose...
Lewis Hamilton.
Oui, c'est ça, voilà.
J'ai eu le même réflexe.
D'accord. Mais les milieux d'affaires considèrent y être, car il est de plus en plus difficile de trouver des employés et les coûts salariaux grimpent en flèche. Le salaire minimum augmentera en 2010 de 22,8% alors qu'il n'avait gagné que 12,5% par an entre 2006 et 2010. Ce qui fera dire en 2011 à Geoffrey Grothall du China Labour Bulletin « La course planétaire qui consiste à produire au plus bas coût est terminée. On peut trouver des travailleurs moins chers en dehors de la Chine, mais il est impossible d'en trouver autant. » Depuis le printemps 2010, les conflits sociaux n'ont plus cessé. La Ligue des droits de l'homme rapporte que la nouvelle génération de salariés supporte moins bien des conditions de travail éprouvantes. Il ne se passe plus un seul jour sans qu'une grève surgisse, à l'instar de ce débrayage en mars 2015 chez des fournisseurs de Nike ou de Reebok, où 5000 employés ont fait la grève. Les téléphones portables et les réseaux sociaux jouent dorénavant un rôle clé en disséminant des informations continues auprès de millions de travailleurs, aussi qualifiés de « rebelles digitaux ». Ah, j'aime ça, « rebelles digitaux ». Par ailleurs, la majorité des multinationales occidentales ont mis en place des programmes d'achat responsables pour inciter leurs fournisseurs à instaurer des conditions de travail décentes. Ces entreprises ne le font pas seulement pour minimiser le risque de mauvaise réputation, mais aussi pour sécuriser leur approvisionnement. Une meilleure transparence et l'implication des différents maillons dans une démarche de progrès ne sont pas qu'un moyen d'améliorer l'image des donneurs d'ordre. C'est avant tout une volonté d'adaptation afin de sécuriser le business, commente Nathalie Perroquin, vice-présidente responsable sociétale du groupe Coty. Le 28 mars 1985 à 10h, Ronald Reagan lançait la journée de courtage à Wall Street en frappant la cloche de la bourse de New York et en s'exclamant « We're going to turn the bull loose », ce qu'on pourrait traduire par « on va libérer les forces du marché ». Marquant ainsi le point de départ symbolique d'une mondialisation débridée. Merci beaucoup,
et
Ronald.
Irresponsable,
ah, oui. Ça, vraiment. Les historiens retiendront que 25 ans après, le 17 mai 2010 à 7h50, Tan Zeking lui répondait en tapant sur le bouton d'arrêt d'urgence d'une usine sino-japonaise en criant « Don't work for such low wages ». Ne travaillez pas pour des salaires aussi bas. Ce geste ne fut certes que la manifestation d'une orientation de fond déjà entamée. Ce type d'incident n'était pas le premier et la tendance se serait inévitablement confirmée 3 ou 6 mois plus tard. Qu'est-ce que 6 mois à l'échelle de la mondialisation ? Pas grand-chose. En revanche, pour une famille pauvre du centre de la Chine qui hésite encore entre envoyer sa fille à l'école ou la faire travailler, oui, ça existe, quelques centaines de yuan supplémentaires sur 3 ou 6 mois peuvent engendrer une différence quasi existentielle. Toute cette belle histoire me rappelle... une exhortation assez ancienne et bien connue, travailleurs de tous les pays, unissez-vous.
Oui. Mais faut-il le dire, pour l'économie chinoise, c'est extraordinairement sain parce que le cycle économique chinois qui consistait à produire essentiellement pour l'exportation, faire rentrer des capitaux puis ensuite faire des dépenses n'importe comment, c'est ridicule. Il faut que son marché interne se développe, il faut que ses travailleurs consomment, il faut que pour consommer, ils gagnent de l'argent. Donc, c'est sain qu'ils soient de mieux en mieux payés. Et par ailleurs, j'ajoute qu'on est en Chine au moment où les enfants uniques des enfants uniques commencent à travailler. Ça fait des sacrés mauvais communistes, ça.
Jesus' name. yo 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 yo
Une reprise de Get Up, Stand Up, choix musical de Rémi Hermoso qui assure la direction de cette émission et qui étend son pouvoir sur chacun de nos mots. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, c'est la faute à Rémi. Voilà, c'est dit. Ceci dit, si ça ne vous tente pas de vous lever et de marcher, eh bien, vous pouvez toujours appeler un taxi. Je sais, on vous parle souvent du taxi sur cette émission puisque Uber est en train de brasser la cage de toute l'industrie. Ça a amené Francis Veil de La Presse à s'interroger sur l'industrie et sur l'impact d'Uber. Ça nous donne un article qui a de la valeur, notamment parce qu'il pose très bien le problème. Ça a été publié le 19 mai. L'électrochoc Uber. Permis de taxi à vendre, affilié à Champlain, sans voiture mais avec GPS, 186 000 $ prix négociable. Le modèle économique de l'industrie du taxi est absolument fascinant. Avant de pouvoir travailler une seule minute, le chauffeur doit payer une fortune. Et pour assurer sa retraite, il doit s'en remettre au site d'annonces classées, comme c'est le cas de cette annonce parue la semaine dernière sur Kijiji. À Montréal, il y a environ 4400 permis de taxi détenus par 3800 personnes. Leur nombre est rigoureusement contrôlé et leur valeur globale avoisinerait le milliard de dollars. Aucune autre industrie, par ailleurs très réglementée, n'est ainsi organisée. Je fais un bémol ici pour dire que, probablement en production laitière, le système des quotas de lait notamment ressemble un peu à ça. Dans le jargon économique, on dit que ces permis agissent comme une barrière à l'entrée. C'est-à-dire qu'il bloque la venue de nouveaux concurrents. Ce système protège le gagne-pain des détenteurs de permis, mais en même temps, il est un puissant frein à l'innovation. Dans ce contexte, il n'est guère surprenant de constater l'électrochoc que provoque l'arrivée d'Uber. L'entreprise américaine a développé une application de réservation-paiement sur cellulaire qui est révolutionnaire, mais en même temps, elle agit en véritable délinquant. Uber, faut-il savoir, est utilisé de deux manières, essentiellement. D'abord, des chauffeurs de taxi s'inscrivent au service pour augmenter leur volume d'affaires. Uber agit en quelque sorte comme une centrale de réservation, mais sans détenir elle-même de permis de centrale, ce qui est passible d'une amende de 350 $ par course. Ensuite, des centaines de citoyens ordinaires s'inscrivent comme chauffeurs sur le service Uber X pour arrondir leur fin de mois. Ces chauffeurs d'occasion n'assument pas les frais de financement du permis de 186 000 $, ne paient pas d'assurance en sus sur leur véhicule, ne subissent pas les inspections et les vérifications d'antécédents des autorités, ni ne possèdent de permis de conduire particulier. Bref, Uber les encourage à agir dans l'illégalité et à faire une concurrence déloyale aux vrais chauffeurs de taxi, dont les revenus sont souvent modestes. Jeudi, on a eu droit à un nouvel épisode du comportement cow-boy d'Uber. L'Agence du revenu du Québec a perquisitionné les locaux de l'entreprise car elle croit qu'Uber ne s'assure pas que ses chauffeurs voient au prélèvement des taxes de vente, TVQ et TPS. L'enquête ciblerait plus particulièrement les chauffeurs d'Uber X. Ce n'est pas tout. Selon une enquête de mon collègue Tristan Péloquin, tout indique que les profits d'Uber X échappent au fisc puisque l'entreprise n'a pas d'établissement stable au Canada, mais plutôt aux Pays-Bas et dans le paradis fiscal des Bermudes. En tant que chauffeur Uber X, Tristan a d'ailleurs constaté que les paiements de ses clients sont versés directement dans un compte des Pays-Bas, une juridiction qui sert de courroie vers les paradis fiscaux. Même ses chèques de paye lui venaient de ce pays néerlandais. Uber est donc dans la ligne de mire du fisc. Elle subit aussi les foudres du bureau du taxi de Montréal qui a procédé à la saisie d'une soixantaine de véhicules Uber X ces derniers mois. Son application est pourtant révolutionnaire. Les clients peuvent voir sur leur téléphone la localisation précise des taxis Uber, constater leur déplacement vers eux, activer le paiement automatique de leur carte préenregistrée et accorder une note au chauffeur. Tout est automatisé et hyper convivial. Pourquoi défier les règles de l'industrie alors que l'application à elle seule pourrait lui attirer des clients? Est-ce parce que l'avance dont dispose Uber sur ses concurrents avec son application est trop facile à combler? Chose certaine, la venue d'Uber secoue un secteur qui est stagnant depuis des années. Elle obligera probablement l'industrie à faire un examen de conscience sur son mode de fonctionnement, ses nombreux règlements, ses principes de tarification et le service de ses chauffeurs. Le directeur général par intérim du bureau du taxi, Alain Rochon, admet que l'industrie doit se redéfinir, prendre un virage et innover, mais en sauvegardant le système des permis en place. De gros défis en vue, sachant que la concurrence qui apporte l'innovation pourrait en même temps faire baisser le prix des permis, au grand désarroi de leurs détenteurs et des institutions qui les financent.
Alors, c'est amusant parce que vous venez de nous parler d'Uber. Ben, figurez-vous qu'Uber fait des petits, j'allais même dire fait des gros. Il y a une société de covoiturage qui s'appelle Lyft, elle a bien nommé, qui a annoncé, tenez-vous bien, avoir levé 150 millions de dollars de capitaux frais pour se lancer dans une société concurrente et qui va être beaucoup plus grosse qu'Uber. Donc, est-ce que toutes ces grenouilles ne vont pas finir comme les bœufs de la fable? L'histoire nous le dira.
Et puisqu'on en est à ces bizarres créations qui nous viennent d'Internet, sachez que le monde a tremblé puisque la New York Stock Exchange, c'est-à-dire la Bourse de New York, annonce que le Bitcoin va être coté sur le parquet de la bourse à 11 heures tous les jours en fonction de sa grille d'évaluation qui est censée être fiable. Donc, le Bitcoin va avoir une existence officielle en bourse. Et ça, c'est assez particulier. On fait une courte pause et on se retrouve de l'autre côté pour la deuxième moitié de cette émission. Restez avec nous.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Et dans la deuxième demi-heure de cette émission, il sera question du marché du livre d'Internet qui doit demeurer ouvert. Mais d'abord, parlons d'Islande, puisque là aussi, la terre a tremblé, semble-t-il.
Ben oui, et puis elle est bien conçue pour trembler avec ses volcans et ses boues qui s'élèvent jusqu'au ciel. Et qui sont, paraît-il, fort bonnes pour la santé. En tout cas, on le disait tout à l'heure, l'Islande a connu dans le sillage des subprimes une crise absolument terrible au niveau des banques. Et la réaction de l'État a été de se dire, il ne faut pas que ça se reproduise. Et on est suffisamment petit, donc le too big to fail là-bas peut-être ne joue pas tant qu'en Amérique. On va contrôler nous-mêmes le système bancaire. On va être le système bancaire en tant qu'État. Alors, ça a intéressé Natalie Johnson, c'est une économiste qui est professeure à la Neoma Business School et qui a écrit un article d'opinion dans la Tribune qui s'appelle « Le retour de la planification bienveillante ». L'Inde a été particulièrement touchée par la crise des subprimes de 2007. Le pays dont le niveau de vie jusque-là était parmi les plus élevés du monde s'est retrouvé ravagé par les conséquences d'une crise dont le secteur bancaire porte l'essentielle responsabilité. Depuis lors, le sujet de la réforme monétaire est au cœur des préoccupations des Islandais. Elle vise à ce que la croissance reparte sur des bases saines et à s'assurer qu'une telle crise ne se reproduira pas. Le rapport commandé par le Premier ministre et rédigé par Frosti Sigurjonsson vient d'être publié. Il ne manque pas de susciter l'intérêt étant donné la proposition de réforme monétaire qu'il promeut. Si le constat dressé sur les vices de fonctionnement du système bancaire islandais est relativement juste, les préconisations pour y remédier sont étonnantes puisqu'elles accordent un rôle central à l'État dans la création monétaire. Après la chute du mur de Berlin, on pensait définitivement éradiquer la croyance dans la capacité de l'État à allouer de façon éclairée les ressources. Le constat est clair. Entre 1986 et 2006, le produit intérieur brut de l'Islande a cru de 3,2 par an, alors que dans le même temps, l'offre de monnaie augmentait en moyenne de 18,6 par an. Ça, c'est vraiment une comparaison intéressante parce qu'on comprend tout de suite ce que c'est qu'un décalage aberrant.
À cause de l'accès au crédit, donc.
Voilà. L'origine de cette croissance effrénée se trouve dans l'essence même de la création de monnaie par les banques commerciales gérant des dépôts. En effet, les banques de dépôt fonctionnent sur la base de réserves fractionnaires, c'est-à-dire qu'elles accordent des crédits sur la base des dépôts des particuliers et non pas en transférant une épargne préalablement constituée, ce qui est le cas pour un pur intermédiaire bancaire. Pourquoi les banques de dépôt ont-elles cette capacité d'accorder des crédits sur la base de fonds qui ne représentent pas une épargne ? Parce que les retraits des uns compensent les dépôts des autres. Dans ces conditions, la banque a la capacité de prêter la partie stable des dépôts, étant entendu qu'elle doit constituer des réserves suffisantes pour faire face aux retraits réguliers de ses clients. L'hypothèse fondamentale à la stabilité du système est l'indépendance des comportements des déposants. Celle-ci n'est évidemment plus vérifiée en cas de crise et explique les courses au guichet qui peuvent s'en suivre. Le système bancaire à réserve fractionnaire est effectivement sujet aux crises dès lors que la confiance est rompue. L'autre faiblesse, soulignée par le rapport Sirger-Johnson, est l'incapacité de la Banque centrale de contrôler la création monétaire des banques commerciales compte tenu de l'organisation bancaire actuelle et du développement du marché interbancaire et monétaire. C'est sûr que si on peut aller se refinancer à l'extérieur du pays, le contrôle de la Banque centrale va être limité. Les banques commerciales n'attendent pas d'avoir des réserves excédentaires pour accorder des crédits. Sur la base d'un calcul coût-bénéfice, il leur suffit de savoir si le rendement du crédit qu'elles peuvent accorder est supérieur au coût des ressources qu'elles devront lever pour le financer. Alors que le seul critère devrait être le potentiel de réussite des entreprises avec, d'une certaine façon, un partage du risque.
Oui, alors ici, la banque se demande, est-ce que j'ai l'argent dans mes coffres? Oui, non, peut-être. Mais si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave, puisqu'à 4 % d'intérêt, moi, je peux emprunter à 3,5 en Angleterre, aux États-Unis, en Chine, voilà. Et donc faire un profit quand même.
Et en fait, je détourne mon activité première, qui est celle de prêteur, par celle d'emprunteur garanti. Et là, on est dans quelque chose de complètement pervers. Et quand je parle de partage du risque, il est évident qu'en tant qu'entreprise, la banque doit elle-même garantir ses revenus et ne pas se lancer dans n'importe quoi, mais dans une mesure seulement. Ça n'est que comme ça que la relation avec le client est saine, fondée, et puis qu'elle peut déboucher sur quelque chose. Parce que c'est la porte ouverte sinon à l'achat de n'importe quoi, au financement de n'importe quoi. Se basant sur des travaux réalisés par les chercheurs anglais Andrew Jackson, Ben Dyson, James Robertson, Joseph Huber et Richard Werner, il n'y en a plus, dans la lignée d'Irving Fisher, la proposition forte de ce rapport réside dans la création d'un système où le crédit ne pourra plus se faire sur la base des dépôts courants réservés aux transactions courantes, mais uniquement à partir de comptes d'épargne à terme. Les comptes de transactions détenus par la Banque centrale ne seront ainsi disponibles que pour réaliser des paiements dont la gestion sera déléguée aux banques commerciales. Très bien, ça me fait penser aux digues qu'on met sur les rivières qui risquent d'être en crue et on s'obstine à faire des mesures de hauteur de digues qui sont juste. Mmh. Et comme par hasard, à la prochaine élévation du niveau, il aurait fallu mettre 5 cm de plus et tout est fichu par terre. La maturité des comptes d'investissement sera au minimum de 45 jours et pourra atteindre plusieurs années. Les comptes de transactions seront alimentés directement par la Banque centrale islandaise puisque c'est elle seule qui sera habilitée à créer cette monnaie. La quantité de monnaie désirée sera définie par un comité indépendant de façon transparente, de telle manière à accompagner la croissance économique. Toute nouvelle monnaie sera allouée au gouvernement qui la mettra en circulation à travers l'augmentation des dépenses publiques, la réduction des impôts ou bien encore le remboursement de la dette ou encore le paiement d'intérêts. Par la séparation stricte des activités de gestion de moyens de paiement et de crédit, cette conception entend mettre fin aux excès de crédit qui aboutissent inexorablement à des bulles et à leur éclatement provoquant des crises économiques dévastatrices. Je fais une parenthèse parce que c'est un système absolument parfait à partir du moment où on vit en autarcie. Alors oui, ça a des relents de socialisme qui n'a pas marché parce qu'il y a eu une époque dans l'histoire où on pouvait encore penser qu'on pouvait travailler en dehors de l'existence d'autres pays, et y compris sur le plan monétaire. Mais aujourd'hui, même pour l'Islande, ce n'est pas possible. Même pour les îles Cook, ce n'est pas possible. Donc je veux bien que ça soit très séduisant, rassurant, et puis que ça nous donne l'impression qu'on ne tombera plus dans les travers qu'on a connus avec une crise monétaire exportée, certes, mais ce n'est pas du tout en fermant les frontières. Alors, il va falloir créer une monnaie islandaise aussi pour 300 000 personnes. Mm-hmm. Et comment on va gérer les échanges? Et puis bon.
Et par contre, je trouve très, très, très intéressant de voir que l'argent est finalement donné d'abord à la population si on le fait comme ça, plutôt que fourni à des grandes entreprises qui éventuellement peuvent le faire sortir du pays beaucoup plus facilement.
Oui, et je ne doute pas que ça fonctionnerait au démarrage. Simplement, dans le temps, je ne donne pas 6 mois à cette aventure pour...
Ça, si vous avez un gouvernement axé sur l'austérité, eh bien, tout l'argent va servir à payer de la dette et du déficit et non pas à relancer l'économie.
Thank you.
OK, on vous parle maintenant de livres. C'est un sujet sur lequel je suis très sensible. Bon, je fais mon coming out. Ici, j'avais travaillé l'année dernière sur la campagne du prix unique du livre dans l'équipe des gens qui étaient en faveur. C'est aussi un sujet auquel Vues et Voix est étonnamment sensible. On comprendra pourquoi. Eh bien, cette semaine, le monde du livre au Québec subit une véritable commotion puisqu'il y a un joueur majeur. En fait, il y en avait un et demi. Il y a un joueur majeur dans le marché du livre au Québec, c'est Renaud Bré. Il vient de se payer la demi, c'est-à-dire Archambault, qui était l'autre librairie de chaîne à propriété québécoise. Et bon, on a soumis le tout au Bureau de la concurrence, qui est une compétence fédérale, mais à Québec, pas de commentaire. Le ministre de la Culture, jusqu'à maintenant, semble ne pas vouloir se pencher là-dessus outre mesure. C'est tout le marché du livre qui est en question, et donc toute la question de la culture, ça n'est pas strictement une question économique. José Boileau, elle, s'est saisie du dossier pour Le Devoir d'hier. Ça a été publié sous le titre « Qui s'en soucie ?». Le milieu du livre a subi mardi un véritable tremblement de terre avec l'annonce de l'acquisition des magasins Archambault, propriété de Québécois, par la chaîne Renaud Bré. Pourtant, politiquement, c'est comme si rien n'était arrivé. Gros malaise, prélude à bien d'autres. Au sein du monde du livre, Renaud Bré pesait déjà de tout le poids de sa trentaine de succursales à travers le Québec, poids qui a pris de l'ampleur depuis l'arrivée à sa tête du fils Renaud en 2011. Blaise Renaud fait les choses à sa manière, carrée ou arrogante selon les analyses de chacun. Que les autres s'en accommodent. Cette attitude a déjà entraîné son lot de conflits, le plus spectaculaire étant celui qui l'oppose toujours aux distributeurs d'immédiat et qui fait en sorte que beaucoup de titres québécois ne sont pas accessibles chez Renaud Bré. En ajoutant Groupe Archambault à ses activités, Renaud Bré devient encore plus incontournable car la chaîne se donne ainsi une capacité commerciale importante afin d'affronter les Amazon de ce monde. Les consommateurs se déplacent vers le numérique. Il faut s'adapter, soulignaient les communiqués de Québécois et Renaud Bré. Pour faire face aux grands joueurs internationaux, il n'y aurait d'autre choix que grossir. Ainsi mesure-t-on les transactions en cette ère du tout à l'économie. C'est d'ailleurs le seul regard qu'a posé le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault, ravi de la transaction annoncée. Sauf que cet achat, qui doit être avalisé par le Bureau de la concurrence, touche quand même une fibre particulière pour le Québec, celle de la culture. Or, Blaise Renaud n'est guère sensible à l'écosystème québécois du livre. Il le dit franchement, il n'a rien à faire de la structure du marché telle qu'elle a été mise en place légalement il y a plus de 30 ans. De plus, son rapport au livre est pour le moins particulier. L'espace occupé par ceux-ci dans ces magasins n'aurait, semble-t-il, pas changé, mais il saute aux yeux qu'on attire de plus en plus de chalands par des babioles et autres colifichets. Lui-même, d'ailleurs, se veut davantage commerçant que libraire. Dès lors, que vient donc renforcer la puissante alliance Archambault-Renaud-Bré? Le livre ou une chaîne consacrée aux loisirs? Suffit-il de dire pour faire taire les critiques qu'avec une chaîne québécoise solide, la vente de livres québécois sera au moins protégée? Est-ce avéré? Et de quel type de livres parle-t-on? Quel sera par ailleurs l'impact d'une telle transaction sur les librairies indépendantes, de plus en plus fragiles? Lundi, bien des gens du monde de l'édition s'interrogeaient de la sorte. Mais qui donc, politiquement, pouvait relayer leurs questions? Certainement pas la CAQ, toute tournée vers le rendement financier, et je fais un aparté ici pour dire que la CAQ était totalement opposée au prix unique du livre l'an dernier. Le Parti québécois, il aurait dû montrer un intérêt pour le dossier, ne serait-ce que parce que c'est à un gouvernement péquiste, celui de René Lévesque, que l'on doit la loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, qui a assuré la diversité du secteur et son déploiement à la grandeur du Québec. Mais le nouveau chef, Pierre-Carl Péladeau, est le propriétaire de Québécois. Comment dès lors se prononcer, lui ou le parti, sur ce dossier, d'ailleurs entamé, avant qu'il ne se lance en politique? De son côté, tout occupé à planter en douce PKP avec une motion sur les briseurs de grève, Québec solidaire n'avait rien à dire de la transaction. Protection ou dénonciation de PKP, la paralysie des débats s'annonce déjà dans l'opposition. Ne restait donc que les journalistes pour relancer le ministre de la Culture, la ministre de la Culture, oui, à propos de ce géant qui verrait le jour au moment même où le gouvernement a annoncé des investissements au soutien des libraires agréés du Québec. Hélène David s'est retranchée derrière la décision à venir du Bureau de la concurrence. N'y aurait-il donc que cette instance pour se prononcer? Bref, est-ce que l'économie fait foi de tout? parce que c'est de culture dont il s'agit ici. Martin Léon qui chantait « Nobody's free », mais quid d'Internet? Est-ce qu'Internet est libre, vraiment libre? Et sommes-nous libres dans Internet?
C'est une bonne question. Et on a souvent évoqué cette histoire dans cette émission, mais pas seulement pour savoir s'il y avait un problème de liberté, pas seulement s'il y a un problème existentiel, mais un problème dans le temps. Est-ce que Internet va être longtemps accessible? Est-ce que Internet va être longtemps gratuit? Moi, je vous dis que non, je ne suis pas le seul. Ça ne se voit pas, ça ne se dit pas, et ça va nous tomber dessus, ça va faire mal au réveil. Hein. Bonjour les réseaux sociaux à deux à l'heure. Alors, il y a un membre du Parlement européen qui est également membre du Parti démocratique hollandais. Elle s'appelle Mariëtte Schaak et elle a fondé...
Je suis content que vous l'ayez prononcé parce que j'aurais été très malheureux.
Je me suis entraîné une heure avant de venir. Et elle est fondatrice de l'Intergroupe pour l'agenda numérique pour l'Europe et membre de la Commission mondiale sur la gouvernance d'Internet. Alors elle a publié un article qui s'appelle « Pour la sauvegarde d'un Internet ouvert » dans la tribune, je vous le lis. La gouvernance pourra renforcer la technologie dont dépend Internet, mais à condition que certaines dispositions soient prises, notamment que la vie privée et la protection des données personnelles soient reconnues comme un droit humain fondamental et que l'on édicte des règlements clairs, précis et transparents pour fixer des limites à la surveillance du gouvernement et à l'utilisation des données des consommateurs par les entreprises. Là, c'est direct, on a bien compris de quoi il s'agissait. Bonjour la NSA, bonjour Apple, Google et autres Facebook. Par Mariëtte Schaak, membre du Parlement européen, je vous le disais, et du Parti démocratique hollandais, eh bien, certaines propositions touchant à la gouvernance d'Internet, j'ai dit par, je voulais dire pour, excusez-moi, risquent de provoquer de sérieux conflits. Et pourtant, comme l'Internet croît en importance, il en va de même pour les risques inhérents à l'absence de réglementation. Il existe un risque de plus en plus grand que la plateforme ouverte à laquelle nous sommes tous attachés soit de plus en plus colonisée par la cupidité des entreprises, l'activité criminelle et les conflits entre États. Et les citoyens ordinaires risquent d'en faire les frais. Enfin, moi, je dis, c'est pas un risque, c'est une réalité. Ça fait longtemps que c'est commencé. Hein, regardez toutes les entreprises qui essayent de vous revendre, les compagnies d'assurance qui essayent de vous revendre les données vous concernant que vous avez laissé filer en disant à Internet ce que vous mangez comme calories ou autre chose. Et les citoyens ordinaires, je vous le disais, risquent d'en faire les frais. Il est essentiel de mettre en place des sauvegardes afin que les pays et les sociétés soient contraints de la même manière par des principes qui les encouragent à agir en vue de l'intérêt commun. On retombe encore sur la notion de gouvernance mondiale. C'est le même problème que les impôts, cette histoire à terme. La vision utopique
selon laquelle des gouvernements et d'autres institutions doivent être tenus à l'écart, ne tient pas compte du rôle que les pays jouent déjà sur Internet, souvent secrètement. NSA. Elle n'explique pas non plus le fait que des sociétés géantes exploitent cet environnement en grande partie non réglementé pour s'établir comme de nouveaux souverains. Et je vous le redis, si ce n'est pas les États qui prennent en charge dans un système fédéral de gouvernement les affaires du monde, ce seront les multinationales. Bonjour les dégâts. Quand un pays censure le contenu à ligne à grande échelle ou emploie des moyens détournés numériques pour surveiller ses citoyens, Internet tout entier en ressent l'impact. De même, lorsque les entreprises qui comptent des milliards d'utilisateurs dispersés à travers le monde subissent des vols de données ou choisissent de poursuivre le profit au détriment des droits de l'homme universels, nul ne peut désigner à l'heure actuelle un organisme capable de leur demander des comptes. Nul ne peut solliciter ce type d'organisme. Il y a un vide là terriblement important à combler. Les droits de l'homme ne peuvent pas être équilibrés avec les intérêts des États ou des entreprises commerciales. Le respect des principes de base nécessite un système d'équilibre des pouvoirs, des mécanismes qui peuvent s'assurer de la garantie des droits de l'homme et de la vie privée, tout en tenant compte des préoccupations légitimes de sécurité. N'oubliez pas cette citation d'une question qui avait été posée à l'un des dirigeants de Google, à qui on demandait « Est-ce que la vie privée n'est pas un droit fondamental ?» et dont la réponse avait été « Mais la vie privée n'existe pas ». Hein, et ça, vraiment, il faut le combattre.
Je vous rappelle qu'au Québec, c'est considéré comme un droit fondamental. C'est protégé par la charte.
Oui, et vous voyez, Québec-France, une autre raison de rester la main dans la main, comme disait l'autre. Bon. Jusqu'à présent, les discussions sur la gouvernance d'Internet ont cherché à établir des normes volontaires. Ces premières mesures sont importantes, mais si le processus ne conduit pas finalement à des accords contraignants, ils auront alors peu de chances de maintenir un Internet sûr et en ordre de marche. Des révélations sur une surveillance... Oui, alors, sûr, je sais qu'ici on dit sécuritaire pour dire sûr, donc c'est bien, l'idée c'est ça, c'est sécuritaire. Et vraiment, il ne l'est pas. Il faut absolument se rappeler ça constamment. C'est une illusion. Et je ne vais pas dériver trop. Il est essentiel que les protocoles centraux d'Internet fassent l'objet d'une zone neutre, libre de toute ingérence par toute partie, selon une recommandation adressée par le Conseil scientifique au gouvernement néerlandais. Cette mesure, qui ne fonctionnera qu'à condition d'être contraignante, est dans l'intérêt de tous les pays et de toutes les entreprises. Car la confiance que les utilisateurs placent dans les services construits sur ces protocoles en dépend. On compte au nombre de ces éléments protégés les suites de protocoles TCP/IP, diverses normes, le système de noms de domaine et les protocoles de routage, c'est-à-dire l'ensemble des mécaniques qui vous permettent de surfer, de naviguer et d'utiliser Internet. La Commission mondiale sur la gouvernance d'Internet a présenté une proposition pour établir un nouveau pacte social entre les citoyens, leurs représentants élus, les forces publiques et de renseignement, les entreprises, les organismes de la société civile, les programmeurs et les développeurs. Parmi ces dispositions figurent la reconnaissance de la vie privée et la protection des données personnelles comme droit humain fondamental et un appel à la création de règlements clairs, précis et transparents pour fixer des limites à la surveillance du gouvernement et à l'utilisation des données des consommateurs par les entreprises. Dans ce cadre, la gouvernance pourra renforcer la technologie dont dépend Internet. Les gouvernements ne chercheront pas à créer des moyens détournés pour accéder aux données si cela doit rendre Internet moins sûr. Les entreprises qui stockent ou transmettent les données des consommateurs vont probablement assumer une plus grande responsabilité d'intrusion illégale, de dommages ou de destruction. Et il faut encourager les efforts des gardiens techniques d'Internet en vue d'incorporer des solutions pour promouvoir les droits de l'homme au sein des normes et des protocoles, y compris par le chiffrage des données de bout en bout. Un contrat social de ce type est un processus multipartite et un processus, multipartite ne remplaceront pas un contrôle judiciaire ni le droit international des droits de l'homme. Les institutions de gouvernance actuelles doivent se pencher sur la réglementation d'Internet, mais étant donné les énormes défis que cela représente, il faut également encourager tous les acteurs à agir dans le meilleur intérêt de l'écosystème d'Internet dans son ensemble. Refuser d'agir dans ce sens semble tout simplement trop dangereux. Alors, inversons les termes. Hein. Tous ceux qui nous parlent de liberté nous parlent en fait d'esclavage. Et il faut être conscient de ça et s'organiser, bon sang.
Quelle est la grande ville québécoise où le taux de chômage est le plus élevé? Eh bien, sans surprise, vous l'apprendrez, c'est Montréal. Quoique, généralement, le titre s'échange entre Saguenay, Sherbrooke et Montréal. Le Québec, à ce chapitre, est la grande ville québécoise où il y a le moins de chômage. Les perspectives sont inchangées. Toutefois, selon l'Institut de la statistique, il y a de bonnes nouvelles. Contrairement aux États-Unis, les emplois qui se créent chez nous ne sont pas des emplois à temps partiel ou des emplois temporaires. Il s'agit de vrais boulots. Et ça, en soi, c'est une bonne nouvelle.
Quelques confirmations d'un point de vue que vous avez exprimé la semaine dernière et qui se trouvait juste, mon cher François. Ça concerne l'immobilier. Figurez-vous que les hausses de ventes résidentielles en avril se sont établies à 2,3%. C'est pas ce que vous aviez prédit. Mm-hmm. Mais par contre, vous aviez insisté sur le fait que les bateaux hypothécaires ont attiré un plus grand nombre d'acheteurs. Et bien, c'est effectivement ce qui s'est passé.
Marché du logement, on a appris, bon, il y a une étude qui l'a rendu officielle, la pollution sonore accable plus les pauvres que les riches, c'est maintenant officiel. On s'en doutait, bien sûr, il vaut mieux être pauvre, il vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade. Ceci dit, si vous êtes pauvre, il y a plus de chances que vous soyez malade, notamment en raison du bruit que vous devez supporter. Il y a un lien causal de cause à effet. Donc, absolument clair entre la pollution sonore et l'état de santé. C'est l'Institut de la santé publique de Montréal donc, qui a attaché le grelot cette semaine sur cette question.
On est en train de commencer à prouver l'efficacité d'un programme anti-pauvreté particulièrement original. On connaissait les initiatives de Jacques Attali avec l'année de finances et tout ce qu'il fait au niveau microcrédit qui est de plus en plus en évolution et présente de plus en plus de succès. Eh bien, une étude menée dans 6 pays et qui conclut qu'un programme fournissant du bétail et une formation pour le rentabiliser peut vraiment aider les plus défavorisés de la planète à améliorer leur sort. Évidemment, il ne s'agit pas d'éradication de la pauvreté, mais ce concept qui est de rendre significativement moins pauvres les pauvres me paraît plus intéressant que des grands discours sur des injections massives de dollars pour des investissements routiers qui se retrouvent pour les trois quarts sur des comptes suisses.
Et certainement, ça change plus la vie de ces gens-là. Le plus grand rappel de produits de l'histoire du monde probablement va se produire ou est en train de se produire puisque 34 millions de véhicules pourraient être rappelés sous peu. La cause des coussins gonflables japonais, la marque Tanaka, vous en avez probablement dans votre voiture sans le savoir. Coussins qui ont été préparés avec du nitrate d'ammonium, c'est ce charmant explosif dont on se servent les terroristes parce qu'on peut le faire à partir de fertilisants. Les coussins ont tendance à exploser plutôt qu'à se déployer, tout simplement. Donc, ils sont d'une utilité nulle en cas d'impact. Il y aurait déjà eu des décès, 6 morts et 105 blessés aux États-Unis jusqu'à maintenant, aux États-Unis seulement. Donc, surveillez ça, vérifiez aussi quelle est la marque de votre coussin gonflable. En attendant, sur la bourse de Tokyo, l'action Tanaka, elle, est en chute libre.
Eh bien, puisqu'on parle de problèmes de santé, savez-vous qu'on peut prédire la mort d'une simple poignée de main, non? Figurez-vous que la vigueur ou la mollesse d'une poignée de main permettrait de prédire les risques de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Alors, c'est une étude très sérieuse, parce qu'elle est parue dans The Lancet. Elle a été faite sur 140 000 personnes dans 17 pays. Alors, il y a un petit appareil que vous pouvez fixer sur votre poignet. Et puis, quand vous serrez la main de quelqu'un, il vous dit s'il en a pour pas longtemps, parce qu'il va faire un infarct dans les 3 heures. C'est assez amusant.
Scénario d'exploitation pour le pétrole. Faut savoir que Québec avait demandé qu'on se penche effectivement sur Anticosti si on va chercher le pétrole l'exploitation du pétrole de schiste. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique sur l'île? Parce que les gens imaginent, je ne sais pas moi, quelques dizaines de puits qui vont chercher tout ça. Eh bien, sachez que l'île d'Anticosti, qui oui, est la plus grande île au Québec, les scénarios d'exploitation vont de 3900 à 6500 puits pour aller chercher le pétrole. Alors, je ne vous dis pas ce que ça ferait à l'environnement de cette île-là, qui est absolument magnifique. C'est Le Devoir qui nous en parlait dans son édition d'aujourd'hui.
Et pour faire le corollaire avec ces belles perspectives, vous avez sûrement entendu dire qu'Ottawa veut réduire de 30% ses émissions de gaz à effet de serre. Et M. Harper s'est engagé d'ici 2030 par rapport à 2005. Ça reste encore bien, bien loin de ce qu'il faudrait faire, bien, bien loin derrière ce que font les autres. Alors on espère un meilleur effort, M. Harper. Vraiment, vraiment.
Et on termine donc en rappelant à M. Harper ses devoirs. Oui, nous vous avons présenté cette édition du 21 mai de Kiosque Magazine. On vous remercie d'avoir été avec nous. On remercie Rémi de nous avoir si brillamment dirigés tout au long de cette émission. Et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine.